autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Antonio Fischetti.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Jérémy Besset à la réalisation. C'est un monde merveilleux que nous allons explorer aujourd'hui, celui des microfossiles. Ils sont invisibles à l'œil nu, mais sous le microscope, ils prennent des formes psychédéliques qui font penser à des bijoux ou des voûtes dentelées de cathédrales. Mais ils sont des témoins uniques de l'évolution du vivant. Grâce à eux, nous découvrons le plancton marin, sans qui il n'y aurait pas de poissons ni de pétrole. Les microfossiles permettent aussi de dater les roches, de mesurer la pollution et même de résoudre des enquêtes policières. On leur doit la formation de roches exceptionnelles qui permettent des constructions gigantesques et délicates comme dans la mosquée Sainte-Sophie d'Istanbul. Pour découvrir cet univers autant méconnu que stupéfiant, nous recevons le géologue Patrick de Wever. Patrick de Wever, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géologue, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, et vous venez de publier un merveilleux livre, et justement intitulé « Merveilleux microfossiles » aux éditions Biotope, donc avec le sous-titre « Bâtisseur, chronomètre, architecte ». Donc il faut déjà préciser que c'est un livre illustré de très 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 belles images de ces microfossiles dont nous allons parler et que peu de gens finalement connaissent. Mais d'abord, d'où vous vient l'idée de ce livre? Vous dites dans l'introduction que c'est comme déguster une bonne bouteille de vin, eh bien vous avez envie de faire partager ce plaisir.
Oui, effectivement, une bonne bouteille de vin, on la boit pas seule, on essaie de la partager ça avec quelqu'un d'autre. Regarder un beau paysage, on a envie de le partager avec quelqu'un. Eh bien j'avais une frustration, donc j'avais étudié les microfossiles toute ma vie, et certains sont magnifiques, et j'avais cette frustration de pouvoir les regarder seul et pas pouvoir dire à quelqu'un à côté, t'as vu comme c'est beau.
Voilà, alors donc c'est effectivement merveilleux, mais déjà pour commencer, de quoi parle-t-on? C'est quoi un microfossile? Un organisme mort, mais ensuite, plus précisément.
Oui. Oui.
Par rapport à un fossile, on sait ce que c'est un fossile, normal. Mais alors un microfossile, c'est un fossile très petit.
Eh bien voilà, c'est un fossile microscopique. C'est-à-dire que c'est l'organisme lui-même ou une partie d'un organisme. Oui. Parce que par exemple, les spores ou les grains de pollen appartiennent à des arbres, mais une partie, à un moment donné, c'est microscopique. Donc ça ne veut pas dire que l'organisme entier est microscopique. C'est le reste que l'on étudie qui est microscopique.
Voilà, c'est une partie d'un organisme qui est donc mort. Mais peu importe, disons, la durée, depuis quand il est mort. Ça peut être un fossile d'un animal qui existe encore. Pas forcément un fossile d'un animal préhistorique.
Oui, plutôt de dire que c'est un organisme qui est mort, moi je préfère dire que c'est le reste d'un organisme qui fut vivant. Voilà. Parce que d'un côté, c'est quand même un peu pessimiste, c'est le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Moi, je pourrais faire dire, les organismes n'existent plus, mais ils nous ont laissé quelque chose. Mais je trouve ça beaucoup plus positif.
Il peut s'agir d'organismes animaux ou végétaux. Vous parliez des grains de pollen. On va parler du plancton, mais il peut s'agir aussi de restes d'algues, par exemple, qui peuvent être fossilisés également. Donc, alors, pour les décrire, comment faire? Puisque quand on feuillette ce livre, qu'est-ce qu'on découvre? Alors on découvre par exemple des formes qui pourraient ressembler vraiment à des œuvres d'art. Certains ressemblent à des chapeaux, d'autres des lustres un peu baroques. On aurait comme des couronnes là, des couronnes d'empereurs même quasiment.
Oui, et d'ailleurs ces formes-là que vous avez sous les yeux, elles ont été utilisées dans l'art moderne pour justement faire des boutons de porte, pour faire des lampadaires, pour faire etc. C'est René Binet qui était un architecte d'intérieur et architecte d'extérieur.
De quelle époque?
Fin 19e, tout début 20e. Et il avait utilisé ces formes-là pour faire des décorations de meubles, des lustres, etc.
Donc à partir du moment où on a commencer à les voir au microscope, hein, ces formes, puisqu'il fallait déjà avoir des microscopes hein, pour les observer, des artistes s'en sont inspirés. Donc si on continue un petit peu la description, alors on a souvent des formes très symétriques avec des pointes, hein, souvent c'est assez dentelé, assez ciselé, hein, c'est ça qui est assez stupéfiant. Ça n'a rien à voir avec les formes des fossiles qu'on peut voir à notre échelle, hein.
Oui, en fait, comme ce sont des organismes beaucoup plus petits, les relations avec les lois physiques fondamentales sont beaucoup plus fortes. Et donc, on peut dire que, par exemple, c'est comme des bulles de savon. Une bulle de savon, quelle que soit sa taille, elle est ronde. Et ça répond tout simplement à un problème de tension superficielle au niveau de la structure de la bulle de savon. On associe deux bulles de savon, elles vont avoir une forme très particulière. Ça ne va pas se mettre n'importe où, parce que là aussi, ça répond à des lois physico-chimiques simples.
Donc, pour en avoir une idée, évidemment, on pourra se fatiguer autant qu'on veut à la radio, ça sera toujours très difficile. Le mieux, c'est de les voir. Et il va y avoir des images qui seront mises en ligne hein, sur la page Facebook du site de l'émission autour de la question. J'invite les auditeurs à s'y rendre à la fin de l'émission. Mais où trouve-t-on justement ces microfossiles ? Eh bien, une des sources hein, de microfossiles, c'est cette richesse qu'est le plancton.
Le plancton, en grande partie invisible à l'œil nu, se compose d'une grande variété d'espèces végétales et animales qui répondent au doux nom de diatomées, d'Unaliella, spiruline, Odontella ou Artemia. Trop longtemps négligé, le plancton est en fait un élément essentiel à la survie de l'écosystème marin.
Donc Patrick de Wever, ces microfossiles dont nous parlons, donc on les trouve beaucoup dans le plancton, c'est bien cela?
Oui, tout ce dont je parle là, on les trouve dans l'eau.
En fait. Uniquement, hein, pas sur Terre, uniquement dans l'eau.
Honnêtement, on les retrouve dans des sédiments qui ont été dans l'eau, tout simplement parce que quand c'est dans l'air, ben, c'est pas fossilisé.
Mais ce ne sont pas des organismes terrestres, disons.
Non, mais ils vivent, la plupart d'entre eux, sauf les grains de pollen, ces choses-là qui sont transportées dans l'air et qui tombent dans l'eau, les autres vivent dans l'eau. Donc quand on prend son bain, en été, dans l'Atlantique ou en Méditerranée, on est au milieu de ces organismes-là. Et si on boit une tasse, on avale des milliers de ces organismes-là.
Alors justement, ça tombe bien, puisque nous avions une question hein, d'Adrien Diomeni du Cameroun, hein, puisqu'on nous avions mis la quatrième de couverture de votre livre en introduction, disons, du site de l'émission, et vous dites qu'il ne se passe pas une journée sans que nous les touchions ou les utilisions, les microfossiles, et donc Adrien nous demande qu'il aimerait savoir comment est-ce que nous pouvons utiliser au quotidien, sans nous en rendre compte, hein, ces microfossiles, et dans quel environnement on peut les trouver? Alors vous parliez d'un bain dans la mer, par exemple, on peut même en avaler, savoir.
Oui. Bon, ça, c'est pas une vraie utilisation, on va
oui.
dire. Mais l'utilisation, c'est par exemple quand vous construisez votre habitation avec un calcaire, mais il faut savoir que ça a été construit, ce calcaire, et fait avec des microfossiles. Regardez les falaises, toute la Normandie, avec les falaises du Pays de Caux, hein, ces grandes falaises blanches. Ben, ces grandes falaises blanches, c'est quoi? Oui. C'est un lisier. Oui. Un lisier, de manière plus commune, on dirait c'est quoi? C'est un tas de merde. C'est, au sens vrai du terme, c'est un lisier, donc c'est que de l'accumulation de petites crottes.
Oui.
Alors, comment? Crotte ou fossile? Mais les deux, mon capitaine. C'est parce qu'en fait, les organismes sont tout petits. Et ils sont tout petits, ils sont mangés par d'autres bestiaux qui sont plus grands, mais néanmoins tout petits. Et l'organisme qui le mange, on appelle ça généralement des copépodes, hein, la plupart d'entre eux, mais la partie organique, il la digère, mais la partie minérale, qui est en silice ou en carbonate ou autre chose, mais il ne la digère pas, donc il la rejette. Il la rejette dans des petites, ce qu'on appelle pelotes fécales, hein, c'est-à-dire des petites boules du caca, donc des petites crottes. Et ces petites crottes qu'il rejette sont elles-mêmes microscopiques. Mais elles s'accumulent, il y en a tellement et tellement que ça finit par faire des mètres, des dizaines, des centaines de mètres. Et quand on regarde aujourd'hui un morceau de craie du Pays de Caux, c'est un lisier, c'est de l'accumulation de petites crottes.
Ce sont donc des microfossiles. Alors justement, bon, on y reviendra dans l'utilisation pour les constructions. Mais auparavant déjà, Où est-ce qu'on les trouve, ces microfossiles? Dans quels endroits du monde? Alors vous êtes un chercheur de non seulement de laboratoire, mais aussi de terrain. Vous avez sillonné la planète, hein, de l'Afrique à l'Amérique du Sud, du pôle Nord au pôle Sud, en gros, c'est un petit peu cela?
Oui, un peu partout dans le monde. Pas beaucoup vers les pôles, pas parce qu'il faisait froid, mais c'est parce que...
Vous dites hein, de plus 5000 mètres dans l'Himalaya à moins 5000 mètres
voilà, au large
dans les fosses sous-marines.
Hein. Oui, donc ce n'est pas une affaire d'altitude. Le géologue va là où il y a les cailloux auxquels il s'intéresse, qui se trouvent. Et moi, les cailloux qui se trouvent, c'était dans une ancienne zone tropicale. Donc, c'est en Afrique, surtout en Afrique du Nord, c'est en Amérique de l'Ouest, hein, plutôt les Andes, Amérique du Nord, etc. Japon, etc., etc. Mais c'est parce que ces organismes-là, effectivement, les microfossiles, on ne peut pas dire les microfossiles vivent dans l'eau, ils vivaient dans l'eau.
Mais comment vous faites pour savoir où il y en a? Est-ce que ça, puisque ils sont invisibles à l'œil nu, hein. Donc on en peut avoir une idée à notre échelle, à l'échelle macroscopique de l'endroit où il peut y avoir des microfossiles.
Alors ça, je vais faire mon malin en disant, c'est pour ça qu'on est professionnel, monsieur. Mais non, c'est aussi parce que quand on regarde les cailloux, on les regarde avec une petite loupe. Enfin, une loupe, c'est pas la loupe de Sherlock Holmes, c'est une loupe qui est beaucoup plus forte. Et on voit des petits points et on essaie de repérer ceux qui sont susceptibles d'être extraits de la roche. Et donc, en fait, on essaye, on y va. Je suis allé à certains endroits, je suis revenu sans rien pouvoir extraire. Ouais. Bon, c'est la vie.
Et ce ne sont pas les mêmes microfossiles qu'on trouve en Afrique, en Asie ou ailleurs.
Ça peut être les mêmes. À l'époque, ils vivaient bien sûr pas au même endroit, mais à la même époque, on trouvait à peu près les mêmes fossiles.
Tout simplement
partout.
Parce qu'en fait, même si on va au sommet d'une montagne, dans les Alpes par exemple, il faut savoir qu'à une certaine époque,
c'était un océan.
C'était un océan, donc il y avait du plancton, donc il reste aujourd'hui des microfossiles que vous allez chercher.
Voilà.
En fait, c'est ça. Mais il peut y avoir aussi des microfossiles dans... pas uniquement dans l'eau de mer, mais aussi dans l'eau douce, dans des mares, dans des étangs.
Oui, il y a certains fossiles, certains organismes qui vivent dans les lacs, hein, les diatomées dont il a été question tout à l'heure. Ce sont des petites algues, donc elles existent dans les étangs, elles existent dans les puits aussi. Donc quand on boit de l'eau de pluie, de l'eau de puits,
on boit des microfossiles.
On peut boire... On ne boit pas des microfossiles, on boit des micro-organismes, ils ne sont pas encore fossiles.
Oui, d'accord, mais après, quand on fait
susceptible
caca...
Susceptible de devenir fossile.
Quand on fait caca des microfossiles.
Peut-être, je ne suis pas allé vérifier.
On va laisser le temps de penser à cela avec le groupe Bones of Canada qui interprète Cold Earth. Autour de la question, nous parlons aujourd'hui des microfossiles avec donc le biologiste, géologue, excusez-moi, je vous ai vu faire la moue, hein, géologue Patrick de Vevers, puisque vous intéressez à des organismes morts en fait. Hein. Morts, pas forcément depuis très longtemps, mais morts en tout cas. Alors, ces microfossiles microscopiques qu'on ne voit qu'au microscope, qui prennent des formes extraordinaires, eh bien, à quoi ils servent. Justement, Adrien Giomini du Cameroun nous demandait, en dehors de leur taille microscopique, quels inconvénients et aussi quels avantages peuvent-ils présenter par rapport aux microfossiles pour la recherche. Ils ont beaucoup d'utilité.
Oui, alors, d'abord, au quotidien, les organismes du plancton qui vivent dans la mer, c'est quand même, ça représente le puits de carbone le plus élevé, bien plus élevé que tout ce qui existe sur les continents. Hein, c'est tout petit, c'est dans l'océan, ça ne se voit pas, mais ça pompe beaucoup plus de carbone, donc de gaz carbonique, que tous les organismes qui vivent à terre. Ça sert à quoi d'autre? Mais là où ils sont très abondants, ils tombent, ils sédimentent. Et s'ils sont très abondants, ils n'ont pas le temps de pourrir, on va dire, donc leur matière organique est conservée, et à terme, ça pourra donner des huiles, des pétroles, etc., dans quelques millions d'années. À quoi ça peut servir d'autre? Ben, les fossiles qui s'accumulent, les squelettes, se transforment en roche, en boue ou en roche, et cette roche peut être utilisée, par exemple, on avait parlé de diatomées, mais une roche faite de l'accumulation seulement de diatomées, ça s'appelle une diatomite, c'est simple à comprendre, et ce sont des organismes tout petits, avec des pores extrêmement fins, mais ça peut être utilisé comme filtre alimentaire.
Avant, oui, on y viendra aux applications industrielles, mais déjà ce que vous dites dans votre livre, c'est qu'ils peuvent être utilisés pour dater par exemple des roches, puisqu'ils sont très faciles à extraire, hein, puisque si on veut dater l'environnement.
Alors ça c'est l'utilisation scientifique.
On parle de l'utilisation scientifique.
Ça oui. Cherche à... On permet de reconstituer des environnements, parce qu'on trouve... On ne trouve pas tous les types d'organismes partout. Il y en a qu'on trouve plutôt le long des côtes, les autres avec des mers, dans des mers peu profondes, les autres au contraire dans des mers très profondes. Donc quand on les retrouve dans les cailloux, on arrive à dire, ben voilà, ce caillou s'est déposé dans une mer très profonde ou pas profonde ou près d'une côte.
Et à quelle époque il s'est posé, justement?
Ensuite, comme ils ont évolué, ils ont changé au cours du temps, ben quand on les reconnaît, on dit ça, ce sont des organismes qui vivaient entre 110 et 140 millions d'années.
Leur utilité, hein, si on comprend bien, c'est que comme ils sont très petits, il suffit à la limite d'une pelletée ou même d'un copeau pour en récupérer des centaines. Et pour faire, par exemple, de la recherche pétrolière, ce que vous expliquez dans votre livre, il suffit de prendre une petite carotte, de regarder au microscope les microfossiles pour
c'est l'avantage d'être petit,
prédire la possibilité de pétrole.
Comme quand vous faites un forage avec une chignole, il y a des petits copeaux de bois ou de béton qui sortent. Ben là, des petits copeaux de roche, millimétriques, mais comme les fossiles, eux, sont microscopiques, voire nanoscopiques, ben il y en a plusieurs dans chaque copeau et on arrive quand même à dater le caillou. Alors que si on veut travailler avec des fossiles qui sont plus grands, comme des ammonites, vous faites un trou dedans, vous avez un trou dans une ammonite, vous ne pouvez pas déterminer l'ammonite. Donc vous ne pouvez pas donner l'âge du caillou. Alors que les microfossiles permettent ça.
Vous dites, ce sont aussi des bio-indicateurs, c'est-à-dire ils permettent de mesurer certaines pollutions.
Oui, parce que, par exemple, quand on a installé le barrage de la Rance, ça a modifié
L'usine marémotrice en France.
Oui, c'est ça. Oui. Quand on l'a installé, ben, ça a introduit des perturbations. Et un type d'organisme qu'on appelle les foraminifères, mais ils avaient des formes un peu bizarres, on appelle ça des phénomènes tératologiques. Donc, ils sont sensibles au stress environnemental. Ailleurs, d'autres organismes du même type... là où il y a un volcanisme qui se manifeste, dans la baie où ce volcanisme se manifeste, les organismes encaissent et on a des formes un peu monstrueuses. Alors comme ils sont petits, ça aide aussi, on y pense peut-être pas toujours, mais à la police. Oui. Par exemple, il y a quelques années, l'affaire du Bruyat en Artois, on ne savait pas.
Ouh là là, c'est une affaire qui va nous mener loin. Et comme nous arrivons juste au flash d'infos, cette affaire policière, cette intrigue policière qu'on a pu résoudre grâce à des microfossiles, nous allons y revenir. Donc, dans 3 minutes après le flash d'infos, on se retrouve autour de la question « Que nous disent les microfossiles ?» avec le géologue Patrick de Vevert.
Couleur tropicale. Autour de la question. Antonio Fischetti.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie autour de la question « Que nous disent les microfossiles ?» avec Patrick de Wever, donc professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris et géologue, qui vient de publier un merveilleux livre, merveilleux microfossile, hein, c'est le titre, aux éditions Biotope, hein, un livre qui présente ces fossiles microscopiques et qui prennent des formes totalement hallucinantes, des formes artistiques, on peut le dire, hein, même si c'est l'art de la nature. Et vous nous parliez de l'utilisation de ces microfossiles, notamment pour les enquêtes policières. Alors racontez-nous cela.
Mais rapidement, il y a quelques années, à Bruyères-en-Artois, il était question d'un monsieur qui était ou pas allé dans tel endroit, donc il pouvait être soupçonné. Donc
c'était une, rappelons l'histoire, hein, une jeune fille qui a été assassinée.
Voilà. Et alors, un monsieur.
Dans les années 70, hein,
c'est ça. Alors, il était soupçonné, il lui disait qu'il n'était jamais allé dans le coin où on avait retrouvé la fille. Et en fait, ben, la police a regardé dans les semelles de ses chaussures où il y avait un peu de boue. Et dans le peu de boue qu'il y avait, ils ont trouvé certains types de microfossiles qu'on trouvait que dans le coin où on avait retrouvé cette fille. Et donc, ben, il a pu être confondu. Une autre fois, ce sont des fossiles, des diamants. Ce qu'on appelle des cailloux habituellement, qui sont disparus entre l'Afrique du Sud et Anvers. Et pour les voleurs qui avaient substitué les cailloux à des diamants, pour eux un caillou c'est égal à un caillou, sauf qu'un géologue, ben, un caillou ça parle. Et donc on a regardé quel type de caillou c'était, et on a regardé sur les cartes géologiques d'où il pouvait venir en fonction des endroits où s'est arrêté l'avion. Et donc, on a pu localiser l'endroit et à partir de là, remonter...
Pas simplement, disons, les cailloux. Vous avez observé les microfossiles dans les cailloux.
Oui.
C'est un peu comme une signature, d'une certaine façon, du lieu.
Voilà, c'est ça.
Oui. Alors, parce que justement, ça nous fait une belle transition, puisque en fait, ces microfossiles, hein, en plus d'être beaux et utilisés par les scientifiques ou par les policiers, ils nous racontent l'histoire de la Terre. Et écoutons Christian Sardet, fondateur du laboratoire de biologie cellulaire et marine du CNRS, au micro de Caroline Lachowski, justement, dans cette émission autour de la question.
Les premières traces de vie sur Terre, on les situe autour de 3,4 milliards d'années, quelque chose comme ça. Ça, c'est les premières traces. Peut-être qu'il y avait de la vie avant. On n'en a pas de preuves tangibles pour l'instant. Certainement des sortes de bactéries qui étaient planctoniques, puisque on pense que toute la vie est née dans l'eau. Les animaux ne sont apparus que autour de 800 millions d'années, avec les méduses justement, les ancêtres des méduses ou des cténaires. Les premières presque 2 milliards d'années sont une vie essentiellement planctonique, de cellules uniques, avant que la multicellularité qui caractérise les plantes et les animaux apparaisse.
Patrick de Wever, je ne sais pas si c'est un collègue à vous, Christian Sardet ou,
Oui, je connais, et d'ailleurs il m'a envoyé quelques photos qu'on a pu mettre dans ce livre.
Voilà. Alors, je voudrais vous faire un autre compliment, puisque votre livre, en plus d'être beau, est très bien écrit. Et il y a vraiment des belles images, des belles formules de style. Par exemple, pour parler de la Terre, hein, vous la comparez à une mère, une maman, hein, qui aurait 46 ans et pour qui chaque an dure 100 millions d'années. Donc c'est un peu comme si la vie primitive était apparue à 11 ans, et puis donc 4 heures seulement se seraient écoulées depuis l'apparition de notre espèce, hein, Homo sapiens, et une minute avant l'ère industrielle. Et les microfossiles là-dedans, dans cette histoire alors.
Eh bien, ils sont apparus très très précocement, je ne peux pas vous faire le calcul comme ça de tête, mais enfin... les microfossiles sont apparus, mais nous, ce que le paléontologue étudie, ce sont les restes de microfossiles, ceux qui ont des squelettes. Et ça, c'est relativement tardif.
Oui, ici, il faut quand même imaginer que sont ces microfossiles, enfin disons, avant d'être des fossiles, c'est-à-dire quand ils sont encore vivants, ils ressemblent à quoi ?
Disons que c'est un peu de la matière, un peu de cytoplasme. Alors, on va dire cytoplasme, je vous vois plisser des yeux, ça ressemble à quoi?
Oui,
je
vais faire simple. À quoi un cytoplasme dans la vie courante?
Si vous voulez, une espèce de petit bout de blanc d'œuf.
Oui, en blanc d'œuf, on voit ce que c'est.
Voilà, mais... que vous mettez dans l'eau, vous voyez, on a du mal à le voir. Sauf s'il y a des petits composants de cet organisme qui ont une petite couleur brune, une petite couleur verdâtre. Donc vous dites, il y a un petit quelque chose.
Voilà.
Et vous le voyez mieux encore s'il a un squelette. Mais s'il n'a pas de squelette, c'est très difficile à voir.
Donc c'est microscopique. Il faudrait imaginer une sorte de goutte de blanc d'œuf dans de l'eau, mais très petite, petite.
Voilà.
Voilà, c'est ça, en fait. Et avec un squelette à l'intérieur. Et c'est ce squelette que vous récupérez et vous étudiez.
Et quand on dit petit, c'est 0,1 mm, voire plus petit. C'est vraiment tout petit.
Et il y en a beaucoup dans le plancton. Alors justement, il y a une catégorie de microfossiles qu'on appelle les radiolaires. Ces radiolaires sont les plus beaux, hein, sont les stars des microfossiles. Alors de quoi il s'agit?
C'est vous qui le dites, hein, c'est pas moi.
Oui, enfin disons, ils
ont
une bonne
place. Je précise ce que vous
dites, hein,
parce que moi j'ai passé ma vie à étudier les radiolaires. Ouais, alors forcément, j'ai un petit coup de cœur pour ces organismes. Mais il est vrai, enfin, toute la communauté s'accorde pour dire que ça, quand même, ce sont les plus beaux. Parce qu'ils sont très beaux, parce qu'ils sont à la fois très fins en structure et très joli en architecture, et extrêmement varié. Et en plus, quand on sait qu'ils sont faits de silice, c'est-à-dire, on pourrait dire, quand nous on les retrouve, c'est sous forme de cristal de roche, c'est de la dentelle de cristal de roche en trois dimensions. Et ça, c'est vraiment tout à fait fantastique. Et c'est ça une partie de ma frustration dont on parlait au début. Je voulais pouvoir faire partager ça en disant, regardez comme c'est beau, regardez comme c'est extraordinaire. Et la question qu'on se dit, mais pourquoi cette beauté? Pour qui cette beauté?
Mais pour les lecteurs de votre livre, hein, édition Biotope, un merveilleux microfossile. Mais comment on les obtient, ces microfossiles? Puisque, par exemple, vous dites, il y en a dans l'eau de mer. Alors, si moi je vais dans l'eau de mer, je prends, disons, un litre d'eau de mer, j'ai du plancton là-dedans, je fais sécher ce litre. À la fin, j'attends que les organismes meurent, je prends un microscope, je regarde et je vais trouver ces belles photos que vous avez dans votre livre.
Il faudra d'abord enlever tout le cytoplasme qui a séché. Donc ça va faire une espèce de pâte de gomme informe dans lequel il y a les squelettes de différents... Et vous n'arriverez pas à les extraire. Et donc dans la roche, c'est un peu la même chose. Et toute la difficulté est là. On a des squelettes extrêmement fragiles dans une roche extrêmement dure. Et il faut réussir à les extraire, donc ça ne se fait pas au microburin, ça ne se fait que de manière chimique.
Donc et avec là, des acides, voilà, des produits chimiques,
succession d'acides,
dissolvent la gangue.
Voilà, et d'essais. Donc aux étudiants, je disais souvent, c'est de la cuisine française, c'est pas de la cuisine américaine. C'est-à-dire qu'on a une recette globale, mais à chaque caillou, il faut adapter cette recette comme en cuisine française, on a une recette, on ne fait pas half a teaspoon, on dit bah, lui il aime bien sucré ou lui il aime bien... Donc on adapte et là on adapte au caillou et donc on essaye. Et parfois, il m'est arrivé pour d'extraire ces certains organismes qui sont illustrés là-dedans, j'ai passé une semaine au labo à rien obtenir. Le vendredi soir dépité, j'ai tout mis mes quatre échantillons dans le même bocal, j'ai dit je verrai ça lundi. Et le lundi je voyais des petits grains. Donc je me suis dit, Eureka, je les ai. Sauf qu'à nouveau, j'ai repassé une semaine, parce que je ne savais pas de ces petits grains de quel caillou ils venaient. Et si on ne sait pas de quel caillou ça vient, on ne peut rien en faire. Et j'ai repassé une semaine à retrouver le bon dosage, parfois on s'arrache les cheveux.
Donc c'est pas, bah, il vous en reste encore un petit peu, quand même, ça va. Hein. Donc tant mieux pour vous. Donc votre livre est quand même un très bel hommage aussi au plancton. Hein. Vous dites, hein, le plancton constitue 98% de la biomasse de la mer. Chaque année, nous consommons l'équivalent en pétrole, hein, de 2 millions d'années de plancton enfouis dans la mer. Puisque c'est grâce au plancton qui finalement se décomposant fournit ce fameux pétrole et grâce auquel nous roulons. En d'autres termes, en une journée, nous consommons 11 000 ans de production planctonique. Et pour ce qui est des poissons, hein, pour un kilo de thon, une masse d'au moins 10 tonnes de phytoplancton a été consommée. Hein. Donc c'est quand même incroyable, hein, quand... d'imaginer ça. Partons en mer avec Léo Ferré, La mémoire et la mer.
La marée, je l'ai dans le cœur qui me remonte comme un cygne. Je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon cygne. Un bateau, ça dépend comment on l'arrime au port. De justesse, il pleure de mon firmament. Des années-lumière et j'en laisse. Je suis le fantôme Jersey, celui qui vient les soirs de frime. te lancer la brume en baiser et te ramasser dans ses rimes comme le trémail de juillet où luisait le loup solitaire, celui que je voyais briller. Au doigt du sable de la terre. Rappelle-toi ce chien de mer que nous libérions sur parole, qui gueule dans le désert des goémons de nécropole. Je suis sûr que la vie est là avec ses poumons de flanelle quand il pleure de ces temps-là, le froid tout gris qui nous appelle. Je me souviens des soirs là-bas et des sprints gagnés sur l'écume, cette bave des chevaux rats au ras des rocs qui se consume, ô l'ange des plaisirs perdus, aux rumeurs d'une autre habitude, mes désirs dès lors ne sont plus. Qu'un chagrin de ma solitude.
Léon Ferré, La mémoire et la mer, très belle chanson qui justement renvoie à notre sujet, hein, Patrick de Wever, Les microfossiles avec le livre hein, que vous venez de publier aux éditions Biotope et Muséum National d'Histoire Naturelle, il ne faut pas l'oublier. La mémoire et la mer, disait Léon Ferré. Léon Ferré, alors justement, il faut avoir la mémoire de l'océan grâce à ce plancton et ces microfossiles qui sont votre objet de recherche.
Voilà, il nous donne l'histoire de la Terre d'une part et il nous signale aussi, et vous l'aviez signalé juste avant, que chaque jour on consomme 11 000 ans d'énergie solaire enregistrée, emmagasinée par ces microfossiles. Ça veut dire que l'énergie est finie. L'énergie fossile est quelque chose de fini. Et nous, on agit encore aujourd'hui comme si c'est infini. Ça pose une question aux citoyens.
Un autre proverbe japonais, puisque nous sommes dans la philosophie, que vous citez dans votre livre, les poussières qui s'amassent forment une montagne. Et justement, hein, on apprend aussi que ces radiolaires, hein, ces microfossiles invisibles à l'œil nu, eh bien, c'est grâce à eux qu'on a des montagnes.
Oui.
Oui. Comment ?
Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas le plus gros, le plus important. Le plus important, c'est le nombre. Imaginons un samedi soir à la sortie d'un bal, une bagarre de dinosaures, terrible bagarre, 10 morts.
Des années après. Dinosaures à la sortie d'un bal, hein, oui, d'accord. Des vrais dinosaures, vous dites, des ivrognes, hein, des vrais dinosaures.
Bah, des vrais dinosaures ivrognes, hein.
D'accord.
Imaginons,
oui, on imagine, oui.
Donc ça va faire un tas d'os. Ça fera jamais une montagne. Et ce qui fait la montagne, c'est l'accumulation des organismes qui sont, on a parlé de microfossiles, qui sont microfossiles.
Et il y en a tellement, 98% de la biomasse. Des océans formés par le plancton.
Et donc il y en a des milliards et des milliards, et c'est eux qui forment toutes ces grandes falaises, c'est fait par des organismes infiniment petits.
Par des microfossiles, c'est-à-dire hein, des squelettes de micro-organismes qui se sont accumulés, donc au départ des organismes vivants,
oui,
qui deviennent finalement du minéral,
oui,
de la roche.
Et là aussi, j'aime bien tirer une leçon pour le citoyen. Le nanofossile donc est tout petit, mais il est tellement abondant que ça compte. Et on a tous chez soi des veilles. On a des veilles parce que ça coûte pas cher et parce que ça consomme pas beaucoup. Mais donc on en a beaucoup. Et au niveau d'un pays comme la France, mais à la consommation.
Les veilles, vous voulez dire hein, les petites lumières.
Les petites lumières qu'on a sur les ordinateurs, sur les fours à micro-ondes, etc. Eh bien, si on fait la somme de la consommation de ces petites veilles qui représentent rien, c'est l'équivalent du fonctionnement d'une tranche de centrale nucléaire. Vous voyez, ce sont les veilles qui font la nécessité d'une centrale nucléaire.
Donc les poussières qui s'amassent forment une montagne, comme le proverbe chinois le dit. Les microfossiles servent également pour des applications industrielles. Alors c'est encore plus étonnant, hein, vous parliez alors des filtres pour le vin. Mais quel rapport entre ces microfossiles qu'on trouve dans le plancton marin, qui ont des formes de cathédrales, et puis ce qui peut servir à filtrer le vin ?
Mais ces microfossiles, il y a plein de petits trous, des petits pores. Et bien donc, quand ces organismes s'accumulent et forment une roche, cette roche, elle est pleine de tout petits pores. Et ils sont tellement petits que ça représente en fait une qualité de filtre remarquable. Et en plus, la roche est siliceuse, c'est-à-dire que c'est parfaitement neutre chimiquement. Et donc, ben, on peut mettre du vin qui, même s'il est un peu acide, le vin ne va pas être transformé. Avant, on utilisait d'autres filtres pour le vin, mais on l'utilise aussi comme réservoir, comme c'est très poreux. Par exemple, dedans, on peut mettre de la trinitroglycérine et ça, c'est un bâton de dynamite.
Oui, alors, voilà, on apprend ça aussi dans votre livre. Hein. Le bâton de dynamite est formé à partir de microfossiles. Alors, bon, la dynamite, a priori, c'est dangereux, ça peut exploser. Hein,
ou le salaire de la peur, le fameux livre.
La nitroglycérine, dans Le salaire de la peur, le film de Clouseau, hein, où il transporte de la nitroglycérine liquide. Mais si on, alors, si on met ce produit dans des résidus formés à partir, enfin, disons, dans du minerai formé à partir de microfossiles, comme il y a des petites cavités, ça stabilise le.
Voilà, ça ne peut pas bouger comme un liquide. Hein, c'est un peu stabilisé. C'est comme un liquide dans une éponge. Vous pouvez secouer l'éponge. L'eau ne va pas emmener l'éponge d'un côté ou de l'autre.
Vous dites aussi dans votre livre qu'un microfossile a servi de fil d'Ariane pour la construction du TGV Eurostar hein, qui passe dans le tunnel sous la Manche.
Oui, il fallait trouver une roche qui soit assez imperméable pour que, bien sûr, l'eau n'arrive pas trop, et qui soit assez élastique, etc. Et il n'y avait qu'un type qu'un niveau qu'on appelait la craie bleue, parce qu'elle est un peu bleutée, et on n'arrivait pas à la distinguer physiquement avec des appareils de loin. Et la seule manière de le distinguer facilement, c'était de trouver ce petit fossile qui est un foraminifère qui est dedans. Et donc,
mais quand foraminifère, hein, c'est le nom de ce microfossile. Hein.
Oui.
D'accord, oui.
Et il fallait trouver, suivre la couche dans laquelle on trouvait ce foraminifère. Donc on dit un peu au-dessus, un peu en dessous, etc. Donc c'était le fil d'Ariane.
Ce microfossile était uniquement dans une couche très localisée, très fine finalement. Et le trajet du TGV a suivi exactement cette couche formée par ce microfossile.
Voilà. D'une couche qui a à peu près 100 millions d'années, et c'était lui l'indicateur, c'est pour ça que...
Eh bien, nous leur devons beaucoup hein, aux microfossiles. Méditons là-dessus avec Petit Biscuit qui chante Oceans. Autour de la question, nous parlons des microfossiles avec Patrick de Wever, géologue au Muséum National d'Histoire Naturelle. Donc ces microfossiles et ces radiolaires qui sont une catégorie de microfossiles particulièrement belles. Ces microfossiles, alors on pourrait croire qu'il faut être géologue, faire des recherches compliquées pour les rencontrer, mais finalement, vous nous apprenez que même à Paris, par exemple, sur une façade d'immeuble haussmannienne, on peut en voir, en trouver.
Oui, la plupart des pierres de Paris qui sont en calcaire sont faites de l'accumulation de microfossiles et de fossiles. Il y en a aussi des grands. Mais tout Paris est construit par la vie. Et je trouve ça assez remarquable. Toutes les roches calcaires de France et de Navarre, et partout dans le monde, tous les calcaires du monde sont... S'il n'y avait pas la vie, il n'y aurait pas ce type de roches.
Donc si on regarde une façade parisienne avec donc un microscope, on pourrait voir des microfossiles.
Oui, et même déjà à l'œil nu, si on prend le temps de regarder tranquillement, pas... Ça ne fait pas 20 cm de long, donc il faut prendre le temps d'essayer de repérer. On voit les petites choses. Amusez-vous à le faire et vous allez voir régulièrement Après, quand on a fait ce petit exercice, on s'amuse à le faire un peu partout. Vous allez le long de la quai, le long des quais de la Seine, c'est bourré de micros et de petits fossiles.
Mais on en voit un de temps en temps ou on en voit plein partout, c'est-à-dire la roche est complètement formée de microfossiles.
Elle est complètement formée de microfossiles. Mais on ne les voit pas toujours, on ne sait pas bien toujours les distinguer, mais c'est que des microfossiles.
Mais uniquement à Paris ou bien dans d'autres villes de France ou d'ailleurs, évidemment, puisque à RFI, nous sommes écoutés dans le monde entier.
Tous les calcaires du monde sont construits par la vie.
Donc, soit des constructions de calcaire contiennent des microfossiles.
Voilà.
Ici, comme partout ailleurs dans le monde.
Alors, soit sous forme d'accumulation, ce sont des fossiles, des restes qui se sont accumulés, soit c'était des organismes vivants qui ont construit certains massifs de roches calcaires.
Et les microfossiles, donc en plus de contribuer à la construction des habitations humaines en formant des roches calcaires, ont aussi inspiré des artistes, puisque dès qu'on a commencé à pouvoir les observer, donc il y a eu des reproductions, il y a eu des architectes qui s'en sont inspirés.
Oui, c'est vers la fin, au milieu et fin du 19e siècle, le microscope s'est, on va dire, popularisé. Et donc, on a commencé à regarder beaucoup de choses au microscope. Et puis, on s'est aperçu qu'il y avait plein d'organismes avec des formes tout à fait fantastiques. Donc, c'était une explosion de connaissances et une explosion de curiosité. Et donc, les artistes sont aussi curieux, voire plus curieux que les autres. Donc, ils s'en sont inspirés pour des dessins. Haeckel, le premier, a fait...
Oui, alors Ernst Haeckel, qui est-ce exactement?
Mais c'est un biologiste allemand qui avait découvert les fossiles en allant faire des grandes expéditions océanographiques dans le monde, et il avait trouvé qu'il y avait plein de choses bizarres, et il les a dessinées, et il a popularisé aussi, donc c'était des radiolaires qu'il a surtout étudié, pas seulement, mais donc il a popularisé ça en faisant des livres que toute bonne bourgeoisie se devait de consulter et d'avoir dans le salon, et puis ça s'est répandu, les artistes ont découvert ces choses-là, les ont copiées, s'en sont inspirés. Tout l'art nouveau qui voulait un retour un
donc,
peu...
Donc l'art nouveau, alors c'est à quelle époque à peu près? Donc c'est une tendance...
Fin 19e et jusqu'au milieu 20e à peu près. Donc, et en France, par exemple, c'est la porte monumentale de l'exposition universelle de Paris, qui est une copie, dit l'architecte René Binet, qui est une copie d'un radiolaire qui avait été illustré par Ernst Haeckel.
Et donc, dans votre livre, à la fin de votre livre, il y a aussi des constructions humaines, architecturales, qui s'inspirent de radiolaires. Alors, c'est toujours voulu ou ça peut être un hasard que telle construction ressemble à tel ou tel microfossile?
Je ne peux pas répondre de façon systématique, mais c'est généralement une copie. D'ailleurs, ça s'appelle le mimétisme, l'architecture mimétique, etc. C'est parce que les architectes se sont dit, voilà les organes qui avait un besoin d'essayer d'économiser, utiliser le moins de matière possible, mais néanmoins d'être solide, et en plus on les trouve beaux. Toute raison d'essayer de copier ça, parce qu'ils avaient trouvé des solutions géométriques qui faisaient que l'organisme était quand même assez solide pour ne pas être détruit au moindre petit choc, etc.
Oui, l'art nouveau, justement, son objectif, c'était de réaliser l'unité de l'art et de la vie,
prendre
la nature comme référence. C'est réagir contre le rationalisme du début de l'ère industrielle, c'est ce que vous écrivez. Comme la Sagrada Familia, d'ailleurs, de l'architecte Gaudí à Barcelone, qui n'est toujours pas achevée, mais quel rapport avec les radiolaires? Donc, ce sont des formes très baroques.
Il n'y a pas de... Enfin, quel rapport? Il y a un rapport tout à fait direct, parce que Gaudí lui-même dit qu'il s'est inspiré des radiolaires pour faire toutes ces ouvertures, ces oculus, sont des copies de formes de radiolaires.
Pour finir, un mot alors justement de cette mosquée Sainte-Sophie à Istanbul, ce fameux dôme qui n'aurait pas pu être fait sans les radiolaires.
C'est diatomée là.
Oui, alors
diatomite, c'est une roche très poreuse, on l'a dit, donc très légère, et c'est pour ça qu'on a pu faire un dôme de cette dimension, parce que si ça avait été une roche beaucoup plus lourde, le dôme se serait écroulé. Alors ce qui est remarquable, c'est que quand on regarde ce dôme du dessous, en plus, ça je ne sais pas si c'est voulu ou pas, ça ressemble à une diatomée.
Ah oui, donc c'est
là,
un... on ne sait pas si c'est un hasard ou pas. Hein, donc vous citez aussi Gaudi, l'architecte Gaudi, qui dit « L'architecte du futur construira en imitant la nature parce que c'est la plus rationnelle, durable et économique des méthodes. Hein. » C'est ce qu'on découvre dans votre livre. Je remercie Patrick Devers pour son précieux voyage dans le monde des microfossiles. Patrick Devers, merci.
Merci.
Alors ce livre, je rappelle le titre, « Merveilleux microfossiles aux éditions Biotope et du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris ».
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Donc je suis sûr que vous nous aurez donné envie, en tout cas à tous les auditeurs aussi, d'en savoir plus sur les microfossiles qui, je le rappelle, sont vraiment magnifiques. C'était Autour de la question, avec Jérémy Besset à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Rendez-vous demain, nous allons explorer le monde des parfums, ça tombe bien pour Noël. Hein. Merci de votre écoute, portez-vous bien et dans quelques instants, les infos sur la Radio Mondiale.
Priorité santé. Claire.